Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la notion de gradient et de divergence. J'en ai écrit ici la définition dans le cas classique que vous connaissez sans doute déjà. Pour un champ scalaire A, on définit son gradient de la façon qui est écrite ici, avec une somme sur l'indice I qui est répétée deux fois. Et pour un vecteur AI, on définit sa divergence de cette manière, avec un indice I, lui aussi apparaissant deux fois. Donc on voit que le gradient d'un scalaire est un vecteur et que la divergence d'un vecteur est un scalaire. Alors, on va pouvoir généraliser tout ceci, mais peut-être est-il utile pour commencer que j'écrive explicitement ce qu'il en est dans le cas de la dimension 2, par exemple, parce que c'est moins long à écrire. Ce sera donc un vecteur qui s'écrira d rond A sur d rond X, d rond A sur d rond Y. Et pour la divergence, ce sera la somme de d rond A X sur d rond X plus d rond A Y sur d rond Y. Et maintenant, voyons ce qu'il en est quand on a un vecteur dont on cherche à estimer le gradient, qui sera une matrice, et un tenseur d'ordre 2, donc une matrice dont on cherche la divergence, qui sera un vecteur. Donc vous avez compris que le gradient augmente d'une unité l'ordre d'un tenseur, passant de 0 à 1, ou de 1 à 2, et ainsi de suite. Quant à la divergence, c'est l'inverse, elle diminue d'une unité l'ordre d'un tenseur, faisant passer un vecteur à l'état de scalaire, et une matrice à l'état de vecteur. Alors, gradient de A pour un vecteur s'écrira en fait de la même manière, sauf que cette fois-ci, A possède un indice. Donc on va l'écrire comme ceci. C'est-à-dire que ça correspond exactement à la matrice que voici en dimension 2. D rond A X sur D rond X. D rond A X sur D rond Y. D rond A Y sur D rond X. Et D rond A Y sur des ronds Y. Et vous voyez, en fait, c'est très simple. Chacune des lignes de cette matrice est la transposée d'un vecteur. La première ligne, c'est le vecteur gradient de AX. Bon, comme il est écrit en ligne, il est transposé. La deuxième, c'est le vecteur gradient de AY transposé. Pour ce qui est de la divergence d'une matrice, on écrira ça très généralement d rond a i j sur d rond x j fois e i. Alors je ne l'ai pas dit, mais il y a des sommes sur tous les indices qui apparaissent deux fois. Donc dans les écritures du haut, il y a une somme sur l'indice i, ça je l'avais déjà dit. Dans les écritures de la deuxième ligne, nous avons des sommes sur i et sur j qui apparaissent deux fois également. Vous avez l'indice i ici et là. Vous avez l'indice I ici et là, et vous avez l'indice J là et là, et puis ici et là. Développons la divergence d'une matrice. C'est donc un vecteur, puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur E. C'est D rond AIJ sur D rond XJ fois EI, donc c'est un vecteur. Et on va l'écrire sous la forme, donc, d rond à xx sur d rond x plus d rond à xy sur d rond y en dimension 2, d rond à yx sur d rond x plus d rond à yy sur d rond y. Et là vous voyez que ici encore on peut considérer ceci et cela comme deux entités bien définies, à savoir, pour la première ligne, c'est la divergence d'un vecteur qui serait en fait la première ligne de la matrice. Alors comment est-ce que je peux écrire ça? Bon, je vais écrire ça comme ça, hein, divergence de la première ligne de A, et ici la deuxième ligne du vecteur, c'est la divergence de la deuxième ligne de A. Voilà. Et maintenant, Je voudrais pour terminer que nous voyions un exemple, à savoir la fonction, donc un scalaire en dimension 2 défini de cette manière. On peut facilement calculer ses dérivées partielles. D rond A sur D rond X. Alors je rappelle que quand on dérive partiellement, ça veut dire que par rapport à X, hein, ça veut dire qu'on considère Y comme étant fixé dans ce calcul. Donc ça va s'écrire tout simplement 2XY plus cosinus X et D rond A sur D rond Y, c'est tout simplement X2. Et bien là, vous voyez, vous avez le gradient de A. Alors c'est intéressant de voir ce que ça représente graphiquement, si vous voulez. Si on trace la fonction A dans le plan, alors il faut le tracer dans l'espace en réalité, si on veut tracer une fonction de deux variables. Donc se donner un repère x, y, z. Et bon, je ne sais pas si j'arriverai comme ça visuellement à tracer cette fonction, mais d'une manière générale, quand nous avons une fonction, elle peut être représentée par une nappe, et on peut déterminer ce qu'on appelle des isolignes, hein, c'est-à-dire prendre une intersection avec un plan z égale constante. Donc ici, j'ai tracé en noir la courbe, plutôt la nappe z égale a de xy. Et quand on prend l'intersection avec un plan, on va trouver une certaine courbe. Et ces courbes-là, si on les projette sur le plan xy, on va obtenir, vu de haut, quelque chose qui aura cette allure-là. Donc j'aurai mes isolignes qui, mettons, présenteront une allure comme ceci. Donc chacune de ces courbes a pour équation A de xy égale une constante. Simplement, la constante varie d'une courbe à l'autre. Donc ces isolignes, ce sont un petit peu comme, c'est exactement comme les isolignes d'altitude sur une carte géographique, également comme les isobares sur une carte de distribution de la pression en météorologie. Et il est important d'avoir à l'esprit que le champ de vecteur gradient de A est toujours dirigé vers le maximum. Alors si je prends ici le cas d'une fonction qui ressemble un peu à celle que j'avais tracée tout à l'heure, les isolignes projetées dans le plan sont donc comme ceci, hein. J'ai essayé de les retranscrire à droite, et ici on voit qu'on avait un maximum en haut, donc on aura un maximum au centre, un maximum au centre. Et dans ce cas, le champ gradient de A est dirigé vers le maximum. Et inversement, si l'on a un minimum, bien sûr. Donc on voit l'intérêt que ça présente pour tout ce qui a trait à la géométrie différentielle, à la prédiction météo, à l'océanographie, etc. Voilà, n'oubliez pas de faire des exercices dans le poly.